Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, comment faire? Mettez-vous à sa place, comment faire quand votre groupe est censé reprendre en septembre une tournée abandonnée pour cause de Covid? C'est le cas d'Akhenaton avec Ayam, jauge de 5000 personnes préconisées par le gouvernement, mais ce n'est pas très clair. Akhenaton qui a sorti son nouvel album solo Astéroïde est l'invité de Culture Média dans une dizaine de minutes. Les Indispensables avec la chronique de Thibault Lambert et son coup de cœur pioché sur YouTube. Un créatif, une chaîne où un jeune Belge analyse les méthodes marketing et publicitaires des marques et des médias. Et puis bien sûr, première page, ce matin découvrez l'entrée en matière de Dernière Cartouche, le roman de Caroline de Bodina, apparaître chez Stock. Voilà pour le programme de cette deuxième heure. Où que vous soyez, bonnes ondes sur votre journée. Le journal de la culture démarre maintenant. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, un tube de 1981, Martin Scorsese en plein business, une chanteuse qui s'en va, un patient anglais, une soirée pyjama et une musique de campagne.
Donc ce tube éternel, 39 ans après sa sortie, une chanson qu'on connaît tous et qui est en train de redevenir un tube planétaire.
Vous l'avez probablement reconnu, il s'agit du titre In The Air Tonight de Phil Collins, une chanson qui est actuellement deuxième du top iTunes et qui a été un des titres les plus écoutés au monde ces derniers jours. Alors pourquoi ? Eh bien pour ça. Il y a quelques jours, des ados jumeaux et youtubeurs Tim et Fred Williams se sont filmés alors qu'ils écoutaient pour la première fois le titre de Phil Collins. Ils ont posté la vidéo sur YouTube et leur réaction est tout simplement hilarante. Le solo de batterie les projette en arrière sur leur fauteuil. Leur visage hyper expressif passe par tous les stades. On les sent à la fois envahis et en même temps abasourdis par cette musique. C'est super drôle, ça dure 7 minutes 50 en tout et je vous conseille vraiment de la regarder sur internet. Et surtout, c'est devenu un buzz mondial. La séquence a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ce week-end. Et aujourd'hui, la vidéo, elle cumule à plus de 4,6 millions de vues.
Ah ouais, quand même.
Et ouais, et résultat, plus 1100% d'écoute pour In The Air Tonight sur les plateformes de streaming par rapport à la semaine dernière. Alors donc, Phil Collins peut remercier les deux jeunes Américains. Et en même temps, c'est vrai qu'elle est géniale, cette chanson.
Ouais.
Ouais, elle est super bien.
Ouais, notamment le solo.
Ah bah, le solo de batterie, est incroyable.
Qui fait un peu tout quand même.
Tout, ouais, tout, ouais.
Côté business, Martin Scorsese vient de signer un beau contrat.
Oui, un contrat avec la marque Apple et notamment sa plateforme vidéo Apple TV. Donc après avoir réalisé le film The Irishman pour Netflix, Scorsese dont semble être un adepte de la diffusion en streaming. Avec ce contrat, le cinéaste s'engage à réaliser des films, des documentaires et des séries télé qui seront diffusées sur Apple TV en VOD. Alors le partenariat devrait s'étaler sur plusieurs années et déjà un long métrage de Scorsese est annoncé. Il s'agit de Killers of the Flower Moon, un film policier dans l'Amérique des années 20. Et alors attention au casting, deux habitués du cinéma de Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Mmh. Apple a investi 200 millions de dollars dans ce film et le film sera également distribué en salle par le studio Paramount.
Ah, il sera en salle.
L'un n'empêche pas l'autre.
D'accord. Ouais, ouais, ouais. En France, on a appris hier la mort de la chanteuse Belle Duberry.
Oui, elle était la voix du groupe Paris Combo qui a connu un succès éclatant à la fin des années 90, notamment avec ce titre « Living Room ». Avec Paris Combo, Belle Duberry a connu un succès aux quatre coins du monde. Elle a été nommée aux Victoires de la musique et elle a mélangé la musique swing, la chanson populaire, le jazz manouche. Belle Duberry, de son vrai nom Bénédicte Grimaud, a été emportée de manière subite par un cancer à l'âge de 54 ans. Elle venait tout juste de terminer l'enregistrement d'un nouvel album de Paris Combo.
À Londres, le comédien Ralph
Fiennes.
Je me demandais.
Moi je dis Fiennes.
Ouais,
Fiennes, Fiennes. Moi je dis Fiennes.
Ouais, enfin, c'est lui.
Après,
Ralph Fiennes.
Voilà, Ralph Fiennes. En tout cas.
Se lance dans un monologue totalement d'actualité.
Oui, on le connaît, Ralph Fiennes, pour ses rôles dans La Liste de Schindler, dans les sagas Harry Potter et James Bond, et puis pour son interprétation magistrale dans Le Patient Anglais aux côtés de Juliette Binoche. Et cet automne, l'acteur va à nouveau interpréter une personne malade, mais cette fois-ci sur scène, au théâtre Bridget de Londres. Un monologue écrit par David Harr, un des scénaristes anglais les plus cotés au monde, qui a été touché dans sa chair par le coronavirus. Alors dans cette pièce, l'écrivain raconte son expérience face à la maladie et puis il en profite également pour tacler un peu très ouvertement la politique sanitaire du gouvernement Johnson. Les représentations auront lieu du 27 août au 31 octobre prochain et tout cela se fera évidemment dans le respect des règles sanitaires.
Ah bah oui, il manquerait plus que il n'y ait pas ça pour cette pièce. Bonne nouvelle, aux États-Unis, les fans de VHS, mais qu'est-ce que c'est, vont passer une nuit de rêve.
Et oui, vous êtes peut-être une fan comme Quentin Tarantino. D'ailleurs, vous les avez peut-être fréquentés, Pascal. En tout cas, les cinéphiles des années 80 et 90 leur vouaient un culte sans nom. Eux, ce sont les vidéoclubs. Mm-hmm. Et aux États-Unis, la référence en la matière, c'est la chaîne de magasins Blockbuster. Alors, ces 9000 enseignes étaient réparties sur tout le territoire américain et elles ont permis à une génération entière de venir louer et découvrir des films parfois introuvables ailleurs. Mais les temps ont changé, Internet a tout révolutionné et au fil des ans, les magasins Blockbuster ont tous baissé leurs rideaux, tous sauf un, perdu au milieu de l'Oregon. Et ce survivant, il ouvrira ses portes exceptionnellement pour quelques nuits en septembre. Des clients nostalgiques vont donc pouvoir venir faire une soirée pyjama en visionnant toutes les cassettes qu'ils voudront. Tout est à disposition. Et tout ça pour la modique somme de 4$ par personne. Alors il y aura bien évidemment un canapé-lit, des poufs, des oreillers et même du pop-corn. Bah, moi, ça me donne envie.
Mm-hmm. Et c'est donc bien dans les 9000 enseignes. Hein,
les
c'est
9000
ça.
Enseignes.
Ah ouais, c'est ça.
Ah, j'ai dit 9000 enseignes.
Ah oui, mais parfois, il y a des S qui se perdent.
Et voilà. Excusez-moi.
C'est pas grave, on le met à la poubelle.
Ok, on l'oublie.
Pour terminer, Damien, le duo Joe Biden-Kamala Harris qui a fait sa première apparition publique hier.
Oui, une apparition dans un meeting organisé à Wilmington, une ville portuaire en Caroline du Nord. Alors, pour leur entrée en scène, le candidat et sa colistière ont choisi une chanson de Curtis Mayfield, Move On Up. Alors, je vous propose de terminer ce journal sur les premières notes de ce titre sorti en 1970. Et les premiers mots de ce meeting, c'est un remix signé Valentine Jelin.
Good afternoon, everyone.
Bonjour à tous. Pour moi et pour Kamala, c'est un jour exaltant. C'est un grand jour pour notre campagne et un grand jour pour l'Amérique, selon moi. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications.
Est-ce qu'il est au courant, Joe Biden, que Valentine Jelin le remixe ?
Ben, je pense. Bah, je pense, moi,
oui.
Évidemment.
On lui a demandé l'autorisation. Ça, ouais. Il est très content, d'ailleurs. Merci beaucoup, Damien Caprespine, pour ce journal de la culture. À demain, vous
à
savez
demain.
Qu'on reçoit Canaton aujourd'hui.
Ouais, super.
Super.
Très
c'est après la pub.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Astéroïde, joli titre d'album, quoique un peu inquiétant. C'est le titre du nouvel album solo d'Akhenaton. Et surprise, voici un extrait. Oui, ça s'appelle Surprise l'extrait. Ah ah.
En chantant notre éloge funèbre, chaque année nous voici rescapés de ce destin funeste. Ce micro ce n'est pas pour pavaner, du pur adamantium là pour lacérer les langues pendues de ces crétins punaises. Et tu te souviens, ils se moquaient du folklore, ces gosses qui finiront avec le rap au fond d'un pot de gold. Tcha, l'eau a coulé sous les ponts et notre wave colossale a débordé tous ces cons. Musique négroïde, mais sans comme l'univers change, rien ne fut comme avant quand on a percuté Mars avec un astéroïde. Les suiveurs, eux, sont restés dans les rangs, car on ne fait pas un loup d'un mouton, même si on le met sous stéroïde. Vosti m'a dit, si t'as des bombes, elles larguent les te casse frérot, je vais tresser mes lauriers avec leurs barbelés. Juste au moment où on me croyait hors game stupide, me v'là debout dans leur salon, batte à la main, surprise. Ce n'est qu'une mode allée, elle meurt dans 10 heures, erreur de diagnostic.
Surprise, motherfucker.
Paris de moquerie, avec nous dans le viseur, on plonge, on sort dans le dos.
Surprise, motherfucker.
Ce n'est qu'une mode allée, elle meurt dans 10 heures, erreur de diagnostic.
Surprise, motherfucker.
Paris de moquerie, avec nous dans le viseur, on plonge, on sort dans le dos.
Surprise, motherfucker.
Yeah. Je reviens entre les condamnés à s'éteindre, ici où la violence et la bêtise ne cessent de s'étendre. L'injustice répétée durcit les tendres, on sent l'étreinte. Même les doux protègent leur dos dans les bandes, ce n'est que la crainte qui leur font de monter, de montrer nos pattes blanches. Et qui a amené nos leaders couchés entre quatre planches cloutées, sans la soif de revanche dans mes quatre reins. Super soldat rodé à se battre à quatre contre un. On n'a qu'une branche pour mille corbeaux dans le champ. Fusées éphémères ont brillé un temps et investi dans le champ. Vous cousons notre temps pris devant, ça ne crie même plus à l'aide. On vient carcasse cagoulé pour les asseoir sur leur Mathusalem. Pourtant ces caves ils étaient prévenus, mais je crois honnêtement qu'au fond d'eux ils n'y ont jamais cru. Ils nous voyaient en mendiant, décérébrés et cupides, et on balance à leur sale gueule des grosses liasses violettes, surprise. Et qu'une mode allée, elle meurt dans 10 heures, erreur de diagnostic.
Surprise, motherfucker.
Paris de moquerie, avec nous dans le viseur, on plonge, on sort dans le dos.
Surprise, motherfucker.
Ce n'est qu'une mode allée, elle meurt dans 10 heures, erreur de diagnostic.
Surprise, motherfucker.
Baril de moquerie, avec nous dans le viseur, on plonge, on sort dans le dos.
Surprise, motherfucker.
Surprise.
Toujours cette écriture, toujours ce flow. Surprise, extrait du nouvel album solo d'Akhenaton, Astéroïde. Bonjour Akhenaton.
Bonjour.
Qui fait les chœurs sur qui dit Motherfucker là, sur ce titre?
C'est un petit scratch extrait d'une bonne série télévisée.
Ah, c'est vrai, laquelle?
Je crois que c'est Dexter.
Ah, c'est Dexter, ben voilà, ouais. Il y a du Dexter dans un des titres. Merci d'être avec nous, Akhenaton, dans Culture Média ce matin. On va parler de tout ça, de vos nouveaux titres en solo, de la reprise compliquée de la tournée avec IAM. Mais Marseille d'abord, Marseille où vous êtes, quel climat cet été avec les masques?
Alors, on va scinder les deux. Le climat est magnifique, franchement. Il fait vraiment un très beau temps.
Comme toujours.
Avec les masques, beaucoup moins convivial, beaucoup moins sympa. Et avec un questionnement, à quoi ça sert, surtout,
oui.
Pour moi.
Mais bon, voilà, il y a des consignes. Est-ce qu'elles sont respectées, les consignes? Qu'est-ce que vous voyez dans les bars, dans les rues, sur les plages?
C'est respecté en grande majorité, mais... Après, moi, j'ai des inquiétudes vraiment sur les consignes. Je viens à un point où, au début, dès le mois de mars, on a posté une vidéo disant qu'il fallait respecter les consignes. Et j'en suis 5 ou 6 mois après à me poser véritablement des questions.
De quoi doutez-vous? Pourquoi doutez-vous?
Je doute de la vraie dangerosité de ce virus-là. Vous savez, juste un truc, j'ai fait des pauvres études, mais j'ai fait des études scientifiques au départ, donc c'est des choses qui m'intéressent énormément. Après, je n'ai pas le savoir ni la connaissance des docteurs. Par contre, les docteurs et le comité scientifique ou les docteurs qui sont à la télévision, qui donnent depuis des mois des leçons à des grands, très grands docteurs, très grands généticiens, très grands docteurs infectiologues, c'est des choses qui m'inquiètent un peu. On a toujours écrit avec IAM des morceaux où on se posait des questions. Je me pose des questions, par exemple, je ne dis pas que le masque est inutile, mais il est utile en février, en mars, en avril, au début de l'épidémie. Aujourd'hui, vous prenez vos boîtes de masques, prenez les masques que vous avez là, Europe 1, et regardez, il y a marqué « ne protège pas des virus » dessus.
Ouais, alors là, on est un petit peu dans des thèses limite complotistes.
Le complotisme, c'est un fourre-tout qui sert à expliquer des tas de choses qu'on a envie d'envoyer sur le côté. Moi, je trouve qu'à un moment donné, le plus grand des complots qu'il y a sur Terre, ça s'appelle le business.
Oui,
et le plus grand des complots sur Terre, c'est gagner de l'argent. J'aimais juste, c'est pas du complotisme, je me pose juste des questions basiques sur l'utilité des masques aujourd'hui. Combien il y a de morts par jour? Combien y a-t-il de morts par jour?
Là, en ce moment, bon, on voit simplement les cas qui reprennent.
Non, combien y a de morts par jour?
Je ne sais pas, là, dernièrement, je ne sais pas, honnêtement.
10, 12. Mm-hmm. Une fin d'épidémie, elle se caractérise toujours par une augmentation des cas, parce que le virus s'affaiblit et devient beaucoup plus contagieux, et une baisse de la mortalité. À un moment donné, je pense que le masque a des effets beaucoup plus nocifs. Parce qu'un masque que vous portez 5 heures sur le visage fait baisser le taux d'oxygène que vous avez dans votre sang, par exemple, ou engendre d'autres pathologies, parce que dans votre nez, vous avez un staphylocoque doré, vous avez des bactéries, et vous les respirez en boucle.
Alors là, bon, à Akhenaton, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein, et chacun a le droit de se poser des questions. Moi, je ne peux pas cautionner publiquement ce que vous venez de dire, parce qu'il y a quand même, qu'on y croit ou pas, il y a une politique sanitaire qui est mise en place. On n'a pas de certitude sur le masque, mais on a une petite certitude sur l'absence de masque, en revanche. Donc voilà, bon, après...
On n'a aucune certitude sur l'absence de masque. on a aucune certitude du tout. Encore une fois, attention, je dis pas qu'il faut rien faire ou que ça doit être complètement relâché. Je dis qu'il faut faire attention et écouter les voix de ceux qui travaillent sur ces virus depuis très longtemps et qui ne sont pas assujettis à des obligations économiques.
Oui, est-ce que voilà. C'est une... Entre les lignes, vous semblez défendre le professeur Raoult qui est à Marseille, c'est ça que vous dites aussi, non ?
Entre autres, parce qu'il y en a pas mal d'autres aujourd'hui, si chacun, y compris la presse, fait l'effort de chercher sur, ne serait-ce que sur Internet, les publications de grands docteurs, de certains docteurs de renom, vous verrez qu'il y a quand même des questionnements qui se posent. Je pense que plus c'est un questionnement sur les masques et sur le vaccin en général, sur la possibilité d'avoir un vaccin dans des délais aussi courts. Je me pose la question de savoir comment on fait pour avoir des virus qui sont là depuis 30 ans et ne pas avoir de vaccin, et avoir un virus dont on ignore tout. Donc, vous êtes d'accord avec moi, tout le monde dit... on ignore tout de ce virus, on ne sait rien, mais on trouve un vaccin. C'est incroyable quand même.
C'est Vladimir Poutine qui a dit qu'il avait trouvé un vaccin, mais bon, ouais, c'est pas non plus d'une fiabilité totale. On va parler de votre musique dans un instant, Akhenaton. Merci de rester en ligne depuis Marseille, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Akhenaton est dans Culture Média ce matin, nouvel album solo Astéroïde. On a écouté tout à l'heure ce titre Surprise, album avec le duo marseillais de beatmaker Just Music Beats. 17 titres, l'inspiration est venue, il faut croire. Et puis il y a ce titre que vous reprenez Akhenaton depuis très très longtemps maintenant, Mon texte le savon, c'est un de vos classiques, et vous y revenez à ce morceau régulièrement, pourquoi ?
Oh, parce que c'est un peu un morceau qui raconte un peu ma vie de manière plus introspective. C'est un morceau intime, donc c'est vrai que c'est compliqué des fois de raconter des choses avec précision sur des faits, sur sa propre vie quand on chante. Le faire de manière poétique, introspective, c'est un peu mieux. Donc c'est vrai que c'est des morceaux en plus avec beaucoup de double sens et voilà, et je suis content d'avoir pu le faire. Après c'est un des bons effets du confinement, ouais. C'est qu'on s'est retrouvé au bout de 3 jours de tournée à la maison et je me suis dit dans ma tête, c'est pas possible de regarder des séries, lire des livres, il faut que je fasse de la musique, il faut qu'il y ait de la création. Donc j'ai appelé un duo de compositeurs avec qui je devais travailler depuis pas mal d'années, et ils m'ont envoyé des instrus. Au début on était parti sur un 4 ou un 5 titres, et ça a fini en 17 titres.
Alors sur ce morceau précisément, Mon texte le savon, je ne sais plus de quelle année date la première version.
Ça 2001.
Fait 2001, donc ça fait quasiment 20 ans.
J'étais venu vous voir à Canal+.
Oui, on avait fait un aparté, exactement. Oui. On a fait un petit comparatif. On écoute la version de 2001 et la version d'aujourd'hui. On va voir si ça a beaucoup changé.
Je vends mes rimes comme un savon. Lâche des pompes sur des vinyles que nous gravons. J'applique l'intelligence du turf dans mon sillon. C'est plein de groupes ici, ce n'est que du cœur que nous vendons. Et pour ça, je vends ces rimes comme un savon. Ils vont tout pleuve, tiens le spot, volume à fond. Du mouvement intelligent, furtif et diligent. On n'attend pas la chance, on crée l'occasion.
Ah ouais, vous avez bien changé en 20 ans, Akhenaton. Heureusement, remarquez.
Disons que je suis passé d'un musique un peu... c'était un sample de musique de film, de musique sublime de Nino Rota, du film de Zeffirelli en 1969, qui était vraiment, la musique de Nino Rota était extraordinaire. Donc c'est un film qui m'avait beaucoup marqué en étant enfant, que j'avais regardé avec ma mère. Et du coup, j'avais décidé de reprendre la musique dans l'édition numéro 1 de Mon texte le savon. Là, le dernier est beaucoup plus soul, on va dire. Voilà.
Ouais, beaucoup plus soul,
basé,
ouais,
sur de la soul music.
Ouais, ouais. Vous diriez, après toutes ces années, que votre indignation est intacte, elle ne se tarit pas.
Vous avez pu le voir en début d'émission. Ouais. Je fais appel à la raison dans tout ce que je fais, et y compris et à la raison et à l'amour. Et encore une fois, quand on fait des choses, il n'y a pas de manière hostile. Par contre, dans les questionnements, et des questionnements sur la société, sur la vie en société, il y a des choses de bon sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 52 ans, j'ai toujours cette envie de me poser des questions. Et c'est pas des choses sur lesquelles je pense dans l'instant ou par intérêt personnel pour que notre tournée reprenne. Non, c'est plus des choses, des questionnements de vie en société. J'avais eu le même questionnement lors de la répétition générale de 2020 en 2009 avec H1N1. C'était la, et j'avais fait des morceaux dessus. Hein. Mm-hmm. On peut écouter des titres où j'en parle déjà. Et s'il n'y a pas que moi qui le dis, il suffit d'aller voir Arte, ouais, de voir un beau documentaire qui s'appelle Les profiteurs de la peur, qui explique la bonne mécanique qui se répète. Alors, donc l'indignation est intacte, ouais, comme vous pouvez le voir.
Il y a cette tournée Rap Warrior avec IAM, hein, qui avait débuté en mars, et puis vous avez eu le temps de faire quelques dates, et puis le confinement est arrivé. Est-ce que la reprise à ce jour est toujours, la reprise de la tournée est toujours prévue en septembre ?
Sur le papier, oui, mais dans les faits, on se pose énormément de questions. J'avais posté une petite vidéo un soir où j'étais un peu, je suis pas un coutumier des réseaux sociaux ou de poster des vidéos à tour de bras, c'est pas trop mon truc, mais là vraiment,
on va l'écouter on va l'écouter votre vidéo parce que elle parle d'elle-même. C'était sur Twitter et on a pris un extrait. Écoutez.
On en a un peu marre et on exige des autorités qu'elles nous donnent. On fait pas l'aumône. On représente une part énorme du PIB. Beaucoup plus que l'automobile, beaucoup plus que d'autres secteurs du luxe. Vous les menez dans l'avion quand il faut voyager à l'étranger, monsieur le président. Nous, on n'est pas dans l'avion, mais on représente énormément de corps de métiers différents qui, d'ailleurs, dans cette crise, sont tous solidaires les uns avec les autres. Et ça, c'est magnifique.
Alors, bon, déjà, vous adressez directement au président de la République. Vous êtes comme ça, vous?
Parce que, tout simplement, je m'adresse à la personne qui a fait des discours lors de cette crise, qui a fait des discours répétés à la télévision. Je n'ai rien contre lui parce que je pense que ce que nous vivons est un amas, un conglomérat de plusieurs politiques, de plusieurs présidents, y compris depuis l'après-guerre. Et que
sur cette histoire tournées là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas les règles?
Les règles, je les comprends très bien. Même si je peux être en désaccord, vous avez vu, avec certaines règles, pas avec toutes, avec certaines règles qui vont contre le bon sens scientifique. Je suis, par contre, je me pose des questions sur le respect qu'on donne à notre métier, parce qu'aujourd'hui, regardez, Pascal, on a répété de novembre à mars et on s'est arrêté, d'accord ? D'accord, il y a de l'imprévu et nous l'avons très bien pris, on a même appelé à respecter les consignes, c'est pas un problème, on a vécu le confinement. Là, aujourd'hui, on est encore en répétition, on doit reprendre en 16 septembre, mais on ne sait absolument rien. C'est-à-dire que depuis le 11 mai, on répète. Mais allez voir n'importe quel autre métier et vous leur demanderez dans l'année de travailler un an pour rien. C'est-à-dire sans savoir si on peut reprendre, si on peut partir sur la route. Si nous, au bout d'un moment, c'est juste des réponses très claires. Vous vous rendez compte de la catastrophe pour un artiste d'aller sur la route et d'être soumis à la décision et au bon vouloir d'un préfet dans chaque région, sur chaque date, chaque soir. Mais je ne veux pas rentrer dans la technique pour les auditrices et auditeurs d'Europe 1, mais c'est quelque chose qui n'est économiquement pas viable du tout. Vous finissez une tournée, si c'est annulé à la volée, vous finissez une tournée, vous êtes carrément déficitaire. Je ne connais personne ici qui écoute la radio, qui est prêt à travailler pour devoir de l'argent.
Oui, c'est vrai, surtout pour les artistes sur scène, effectivement, et aussi pour les comédiens et le théâtre, notamment. Ne quittez pas, Kenaton, on va continuer à se parler, vous, à Marseille, moi, à Paris, on dirait le classico. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Et nous retrouvons à Kenaton, en direct de Marseille. Vous avez vu, on vous a soigné en mettant la promo pour les podcasts d'Europe 1 sur l'histoire du PSG. Eh ouais.
L'avantage, c'est d'avoir des archives audio.
C'est ça, exactement.
Pour nous, il n'y a pas d'archives audio, c'est 1899, c'est impossible.
C'est ça, ouais. Ouais, 50 ans, c'est pas... Vous avez regardé le match quand même, quand c'est le PSG qui joue en Ligue des Champions. Ah ouais, vous regardez, vous les soutenez quand même.
Non, pas du tout. Je ne vais pas mentir, moi je suis un fan de foot, mais un vrai fan de foot, et comme c'est à l'italienne, c'est-à-dire en Italie, par exemple, on n'est pas pour les autres villes, moi je suis pareil, dans le championnat français, c'est la même chose.
Vous êtes d'origine italienne, me semble-t-il, donc forcément, vous étiez pour Atalanta.
Exactement.
Dommage, dommage. Alors, effectivement, connaît-on parmi vos fondamentaux assez éternels, il y a le foot, hein, ça fait partie de votre vie, on ne peut pas dire autre chose. Il y a l'OM. Et les choses sont parfois assez délicates avec l'Olympique de Marseille. Avertissement, avertissement, vos oreilles risquent de saigner un peu, mais écoutez quand même.
C'est horrible.
Ah, ça fait mal, hein. Alors j'explique quand même, c'est sur Jump de Van Halen que les joueurs de l'OM font leur entrée au Vélodrome, ça ne date pas d'hier, et vous l'aimez pas ce morceau, pourquoi vous ne l'aimez pas Akhenaton?
En fait, dans la polémique de l'histoire, c'est que j'avais fait une interview avec l'équipe et j'avais dit que je n'aimais pas le morceau, que le morceau était dégueulasse, et je le trouve toujours dégueulasse. C'est plus une question de goûts musicaux que de dîmes. Ce que j'ai dit une fois, c'est si on était rentré sur la danse des canards quand on a gagné la Coupe d'Europe, alors on aurait la danse des canards maintenant. C'est juste que ce morceau-là m'évoque des années où moi je commençais à écouter du rap et tout. Et vous connaissez un peu, vous savez que très bien que le rap était vraiment une musique qui était très à cheval sur les principes et cette musique pop. Trustait toutes les radios dans les années 80 et représentait pour nous qui écoutions du rap à l'époque une musique imbuvable. Donc quand je l'ai entendu, y compris au stade Vélodrome à l'époque, voilà, je me suis fait la réflexion, c'est un morceau qui ne me plaît pas. Il ne me plaisait pas à l'époque, il me plaît toujours pas maintenant. J'ai l'impression que c'est le générique des Champs-Élysées.
C'est pas faux, mais vous êtes allé plus loin, vous vous proposiez de le remixer. C'est vrai qu'il y a moyen de le moderniser.
Non, mais pour m'amuser.
Non, mais c'est bien, pourquoi?
Non, mais parce que je pense que c'est... D'un, il faut demander des autorisations aux auteurs, compositeurs du morceau de le faire. Ça, c'est une question de respect et de droit. Mais surtout, je pense qu'un hymne, il ne s'impose pas un hymne à un club. Et j'aurais aimé qu'à Marseille, on ait un hymne de la force de You Never Walk Alone, parce qu'il représente autre chose. Il dit autre chose dans les paroles, et il est dit par des gamins de Liverpool. Là, c'est un morceau qui dit saute par un chanteur de Pasadena en Californie.
Oui, oui, non, mais c'est pas du tout le même objet. Là, c'est l'entrée des joueurs sur le stade. C'est pas un chant de supporters, de toute façon.
C'est l'hymne, c'est une sorte d'hymne du club. Mais après, c'est vraiment une question de plaisanterie à la base. C'est vrai que des fois, les plaisanteries, et depuis une vingtaine d'années, notamment avec les réseaux sociaux, le second degré, il passe plus très bien. Donc moi, vu que je suis pas un habitué, je parle toujours sans filtre quand je dis des choses. Et voilà, voilà l'histoire. Mais ça peut être marrant de le remixer juste pour le faire écouter. J'ai fait un petit pari avec mes amis Vincent Moscato et Eric Dimeco que je le remixais, que je leur faisais écouter. Mais bon, après ça s'arrêtera là. Ce sera juste pour le fun et juste l'écouter une fois. J'ai aucune prétention de vouloir le mettre au stade de Vélodrome. Je pense que dans le sport, rien ne s'impose.
Exactement. Et puis, il faut jouer, il faut faire avec la susceptibilité des supporters, c'est comme ça. Il y a un changement majeur dans votre ville, Akhenaton, c'est l'arrivée, début juillet, à Marseille, après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, de Michel Rubirola. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se passent et quelle est l'urgence numéro un, selon vous? Ce sont les écoles, non?
C'est carrément tous les voyants sont plutôt au rouge. C'est plutôt un combiné d'écoles et de transports en fait. Je pense qu'il faudrait unifier la ville qui s'est scindée vraiment en deux. Il faut des transports beaucoup plus développés parce que la superficie de la ville est absolument énorme et que des fois ça peut être compliqué pour certaines personnes pour aller à l'école ou pour aller travailler. Des structures, en fait, il y a pas mal de choses. Après, même des questions écologiques. Moi, je suis très à cheval sur ces choses-là. Je ne me suis jamais caché de voter écologiste depuis que j'ai 18 ans. Et qu'il y a des choses qu'on peut mettre en valeur dans notre patrimoine à Marseille. La ceinture des collines qu'on a tout autour. La mer, empêcher les déchets de bauxite d'être rejetés à Marseille Sud. Les croisières les croisiéristes qui viennent passer très près du bord et vous avez une hausse du taux de cancer respiratoire sur tout le littoral marseillais parce que effectivement les gros navires de croisière sont très polluants. Donc voilà, il y a quelques règles, je pense et j'espère que ça va. Et l'arrêt de la bétonisation à tout prix, parce que dès que maintenant il y a un espace vert, au lieu de faire des espaces pour les gens, on fait des immeubles et des résidences et ça circule plus quoi. Il faut vraiment penser à la population, faire une ville pour la population.
Et vous avez confiance en la nouvelle municipalité? Vous pensez qu'elle va parvenir à se sortir de 25 ans de gestion un peu erratique?
Je connais pas les gens qui sont à la mairie, mais en tout cas, je l'espère, j'ai cet espoir. Je pense que j'ai l'espoir, comme beaucoup de Marseillaises et beaucoup de Marseillais, qu'on ira vers le mieux. Et y compris, même, on parlait de sport tout à l'heure, on parlait de foot, dans les installations sportives, dans la formation, dans des tas de trucs qui peuvent être encore améliorés dans notre ville. Ça peut être une ville d'excellence. D'un point de vue sportif, on a un climat quand même qui est très favorable, une géographie favorable. Il faut profiter de tout ça et faire une ville qui devient un peu plus vivable et qui n'est pas une ville dortoir de 1 million d'habitants.
On revient à la musique rapidement pour terminer. Il y a des bonnes choses parmi les nouveaux talents du rap à Marseille. Ça bouge ?
Ça bouge, je pense que ça bouge de partout en France. En fait, le seul souci qu'il y a sur le rap aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de groupes et tellement d'artistes que, en fait, ça demande du temps pour fouiller. Alors, il y a des trucs pas terribles sur l'apparition d'Internet ces 30 dernières années, mais il y a des choses extraordinaires, notamment le fait de pouvoir découvrir de la musique, découvrir des artistes qu'on ne pourrait pas connaître parce qu'il y a 30 ans de ça, ils devaient signer dans des maisons de disques et avoir des contrats. Aujourd'hui, on peut écouter. Et il y a vraiment des jeunes artistes qui font des choses extra.
Et quand vous
Après, sur le rap, ouais. C'est très, très large, extrêmement large.
Oui. Quand vous les croisez, les jeunes générations, vous sentez le respect? Vous êtes le taulier, vous, non?
Je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a un respect, mais c'est pas qu'à Marseille, c'est même dans le rap en France en général. Je pense que il y a une partie des générations qui connaît l'histoire de cette culture et de cette musique. Donc du coup, il y a un respect, je trouve ça plutôt sain. C'est la même chose dont je fais preuve vis-à-vis de nos anciens aux États-Unis, à New York, et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer certains, j'étais extrêmement ému. Ce sont des gens qui m'accompagnaient quand je partais à l'école avec le casque sur la tête et qui ont bercé toute mon adolescence. Je pense que c'est valoriser notre patrimoine culturel et faire comprendre aux gens que ce n'est pas que de la musique FM, c'est aussi une culture. Et d'ailleurs, à ce titre-là, pour moi, la meilleure série qui a été faite, c'est Hip Hop Evolution, parce que cette série-là explique, surtout sur la saison 1 et la saison 2, une histoire très, 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 très proche de la réalité. Mm-hmm. Puisque moi, à cette époque-là, je vivais aux États-Unis et que j'ai vu les choses de mes propres yeux. C'est vraiment une super série pour celles et ceux qui ne connaissent pas le hip-hop. Hip-hop Evolution, c'est une série magnifique.
Hip-hop Evolution, merci du conseil. Merci beaucoup, Kenaton, de nous avoir répondu depuis Marseille. Votre album solo s'appelle Astéroïde et éventuellement la tournée d'IAM, on va vous suivre, qui reprendra en septembre. Bonne journée à vous.
Je peux vous dire un truc, Pascal, juste un truc, parce que je reviens sur le début. Il faut faire attention juste avec le mot complotiste. Parce que
on va pas repartir là, on n'a pas de temps.
Non, on ne part pas. Je dis juste un truc. C'est que toutes les luttes sont rangées systématiquement dans ce dossier-là. Et qu'aujourd'hui, si on range tout dans ce dossier-là, on laisse le champ libre à toutes les idées d'extrême de s'approprier les domaines de lutte. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
Bonne journée à vous à Marseille.
Bonne journée.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Et on arrive doucement aux indispensables de Culture Média. Bonjour Thibault Lambert.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Une fois de plus, vous nous faites découvrir un coup de cœur sur YouTube. Aujourd'hui, une chaîne assez décalée pour tout comprendre de la pub et du marketing.
Oui, parce que je sais, Pascal, que vous avez une passion à peine dissimulée pour la pub.
J'adore.
Alors, je vous emmène faire un tour sur la chaîne d'un jeune Belge. Il s'appelle Incréatif. Et depuis 3 ans, il décortique les méthodes des marques et des médias pour faire de nous, je cite, des consommateurs avertis averti et diverti. Averti d'abord parce qu'il sait de quoi il parle. Avant, c'était son métier, concepteur, rédacteur dans une agence. Un publicitaire désenchanté aujourd'hui, il connaît par cœur tous les ingrédients qui vont nous faire, vous, moi, tous ensemble, adhérer à une marque et consommer son produit. Et diverti ensuite parce que ce liégeois à lunettes parle du marketing un peu à la manière de 99 francs. Vous savez, le roman de Frédéric Becbédé, survolté, cynique, parfois un peu graveleux, didactique aussi, par exemple lorsqu'il explique dans un petit tuto, à mourir de rire au passage, comment créer une pub vidéo ultra cliché pour les jeunes, les 15-25 ans en gros. D'abord, des figurants sortis d'Instagram, beaucoup de hashtags incrustés à l'image, et sans oublier le choix de la musique.
Pour la musique, faut prendre comme base quelque chose de vieux et rock'n'roll, parce qu'on veut être chaleureux, stylé et un peu hipster. Mais on veut en faire un genre de remix pop, parce qu'on veut quelque chose de frais, moderne et péchu, tu vois. Ah oui, très important, il faut qu'il y ait le mot génération dedans. Voilà, on va prendre My Generation des Who. On va booster un petit peu tout ça, avec un peu de compression, un peu d'EQ. Mais surtout, on va popiser ça avec des claps. Plein de claps. Les claps, ça va représenter l'union de toute une génération qui forme ensemble une communauté, qui partage les mêmes valeurs et qui frappe en cœur dans les mains parce qu'ils sont tous connectés grâce à la magie du meilleur smartphone du marché. J'ai presque envie de croire aux conneries que je raconte.
Voilà, vous avez le ton. Alors, c'est pas seulement pour la blague. Cette pub faite maison lui permet de souligner le mal de chien qu'ont aujourd'hui les publicitaires vieillissants à cibler cette tranche d'âge, incompréhension peut-être.
Et dans ces vidéos, un créatif s'arrête sur certaines marques en particulier peut-être ?
Oui, oui. Par exemple, je vous recommande la vidéo sur les méthodes de Netflix pour nous rendre tous accros à cette plateforme. À regarder aussi celle sur un vendeur de meubles suédois très connu qui commence par un I et qui finit par un A.
Vous situez
un petit peu. On découvre ce qu'est l'effet Gruen. C'est ce qui nous arrive quand on se retrouve dans un de leurs immenses magasins. C'est toute une expérience. On est loin du centre-ville, un circuit à sens unique, des restaurants à très bas prix à l'intérieur. Tout est fait pour perdre nos repères et nous faire acheter le plus de choses. Que prévu.
Oui, à la fin, c'est toujours la même chose. Donc, vous diriez que son but, Thibaut, c'est de taper ses méthodes.
C'est de taper sur ses méthodes.
Oui,
pardon,
mais de les taper aussi.
Oui,
quand
de
même.
Taper ses ouais, méthodes. Ouais. Alors, à première vue, on pourrait se dire que oui. Mais ce qu'un créatif veut nous dire à travers ses vidéos, c'est que ce n'est pas la publicité qui est nocive, mais plutôt l'usage qu'en font certaines marques. En juin, dans une vidéo, il expliquait ce qui était, selon lui, une bonne pub, avec l'exemple de la campagne pour la première coccinelle de Volkswagen aux États-Unis dans les années 50. Alors, à l'époque, voiture égale gros volume égale luxe. Et la marque allemande décide d'afficher sa petite voiture en tout petit, je le montre à europe1.fr, sur le coin d'une page blanche avec un simple logo. Ouais, think small, pensez petit, et c'est une révolution publicitaire.
Alors que les plus belles voitures faisaient fantasmer les classes moyennes en montrant la vie de rêve qu'ils auraient avec une Cadillac ou une Chevrolet, Volkswagen a dit « c'est bien d'avoir une petite voiture, c'est beaucoup plus malin, elle vous amène d'un point A à un point B et elle est fiable, c'est le plus important. Et le plus dingue, bah, c'est que vous pouvez vous l'offrir celle-ci. Au lieu d'avoir des pubs de voitures qui s'adressent à une élite ou à des gens voulant faire partie de l'élite, on dit aux gens d'assumer de ne pas faire partie de cette élite. Parce que c'est ok, ils ont transformé ce qui aurait pu simplement être une voiture moche pour les pauvres en un produit culte pour les non-conformistes. Et surtout à l'époque, c'était très atypique de vendre une voiture avec de l'humour.
C'est drôle, vraiment, moi j'y arrive.
Voilà, c'est une chaîne passionnante, soutenue par le Centre National du Cinéma, près de 250 000 abonnés. Un créatif, c'est sur YouTube et les amateurs de second degré apprécieront d'autant plus.
Ça donne très envie, un créatif, cette chaîne YouTube repérée par Thibaut Lambert pour les indispensables. Vous demandez bien quelle première page d'un roman de la rentrée va arriver. Eh bien, on ne va pas le tarder à savoir, à tout de suite. Allez, à nous la première page. Le roman paraîtra fin août chez Stock. Voici le début de Dernière cartouche de Caroline de Bodina. Il m'a appris à éviter les au revoir, à détester les quais de gare. Quand il m'y accompagnait, il faisait semblant d'oublier l'horaire. Une demi-heure avant le départ, il disparaissait, je m'inquiétais. Ma mère, compatissante, disait « Tu sais, ton père, ses promesses. » La voiture qui se garait devant la maison sur le trottoir la faisait taire. Il ouvrait la porte d'entrée, passait une tête et demandait « Alors, qu'est-ce que tu bouines, t'es prête ?» Il jetait mon sac dans le coffre, je montais à l'arrière, il bouclait sa ceinture, se tournait vers moi, attendait que je lui dise « À la gare, Paul, je vous prie. » On se mesurait du regard comme deux gosses cogitent une connerie et il démarrait. Il conduisait sans un mot, la gare était à 10 minutes. Il profitait de notre légère avance pour m'emmener boire un café, debout, au comptoir. C'était la première page de Dernière cartouche de Caroline de Bodina à paraître chez Stock.